de Michel Joseph à la mise en monde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Bonjour, au micro Idrissa Sedoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Des manifestants à Washington ont tenté hier de mettre à terre une statue située devant la Maison Blanche de l'ancien président Andrew Jackson qui soutenait l'esclavage avant d'être repoussé par les forces de l'ordre. En fin de journée, des manifestants avaient franchi le périmètre de sécurité renforcé autour de la Maison Blanche depuis le début de la vague de manifestations contre le racisme qui secoue le pays et accroché de longues cordes à la statue pour tenter de la faire tomber sans y parvenir. Andrew Jackson, président de 1829 à 1837, est également resté dans l'histoire pour avoir massivement fait déporter des tribus indiennes. La pandémie de COVID-19 continue de s'accélérer dans le monde, a averti lundi le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il a fallu plus de 3 mois pour que le premier million de cas soit signalé. Le dernier million de cas a été signalé en seulement 8 jours, a-t-il dit. Il a appelé à augmenter la production et la distribution de dexamethasone, premier traitement à réduire significativement la mortalité pour les cas les plus sévères de COVID-19. L'Arabie Saoudite a annoncé hier le maintien fin juillet du grand pèlerinage à la Mecque, mais avec un nombre très limité de fidèles. Seules les personnes se trouvant à l'intérieur du royaume saoudien pourront effectuer le Hajj. Plus de 9 millions de cas ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe et aux États-Unis, où l'on déplore désormais plus de 120 000 morts selon un comptage de l'AFP. L'Argentine a enregistré lundi ses chiffres les plus élevés de contamination et de décès, et le Brésil reste le pays le plus touché après les États-Unis. L'Afrique du Sud a franchi le cap des 100 000 cas de coronavirus avec un nombre de morts qui avoisine désormais les 2 000, ont annoncé lundi les autorités. 2 militaires de l'armée centrafricaine ont été tués dans une embuscade tendue par des éléments des 3R, un des principaux groupes armés à Besson dans l'Ouest, a annoncé lundi le chef de la MINUSCA. Selon Mankeur Niaye, cette attaque a visé le 21 juin une patrouille mixte composée de soldats des forces armées centrafricaines et de casques bleus. Au Mali, le mouvement dit du 5 juin, coalition de responsables religieux et de personnalités de la société civile comme du monde politique, a affirmé lundi son intention d'étendre la mobilisation à l'ensemble du territoire sans donner de signe de vouloir transiger sur une démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le général Stephen Townsend, chef du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, s'est rendu lundi en Libye pour rencontrer Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union nationale. Il a évoqué avec son hôte l'arrêt des combats dans le pays, selon le JNA et l'ambassade américaine. D'autres nouvelles africaines dans un instant. En attendant, ici à Washington, le président Donald Trump a décidé lundi un nouveau tour de vis migratoire avec le gel des cartes vertes et de certains visas de travail jusqu'en 2021 au nom de la lutte contre le chômage suite à la destruction brutale de millions d'emplois en raison des mesures de confinement. Un nouveau décret inclura cette fois plusieurs types de visas de travail, dont les H1B, très utilisés dans le secteur des hautes technologies. Ethan Melzer, un soldat américain de 22 ans, a été inculpé à New York pour avoir aidé Order of Nine Angles, un groupuscule néo-nazi britannique, à préparer contre sa propre unité en Turquie une attaque qui visait à causer des pertes massives. Les préparatifs remontent au mois de mai dernier, mais l'attaque n'a pas finalement pas été, donc l'attaque n'a pas finalement pas été déclenchée. La suite de nos informations. Au Malawi, nouvelle élection présidentielle aujourd'hui après l'annulation pour cause de fraude de la réélection l'an dernier de Peter Mutharika. Le président sortant affrontera de nouveau Lazarus Chakwera. Nanit Talani.
Hier, Antonio Guterres a appelé toutes les parties à renouveler leur engagement pour des élections crédibles et pacifiques et à observer des mesures pour empêcher la propagation du COVID-19. Lors de sa dernière réunion publique samedi à Rufi dans le nord du pays, Peter Mutharika a exhorté ses partisans à lui rendre sa victoire. « Votons pour faire honte à ceux qui nous ont volés », a-t-il lancé. Lazarus Chakwera a de son côté mobilisé ses troupes, déclarant que la reconnaissance par la justice des fraudes survenues en mai 2019 avait confirmé qu'aucune élection n'avait été véritablement libre dans son pays. Cette fois, nous avons l'espoir que l'élection sera traitée avec l'intégrité qu'elle mérite, a-t-il dit depuis son quartier général de campagne à Lilongwe. Le Malawi se rend aux urnes malgré la pandémie de coronavirus. M. Mutharika avait annoncé l'instauration d'un confinement, mais la justice l'a suspendu sine die au motif qu'il ne s'accompagnait d'aucune mesure d'aide aux populations les plus pauvres.
La CDAO soutient la candidature du Nigeria à la tête de l'OMC et appelle tous les pays à s'unir derrière elle. L'Afrique cherche à présenter un candidat unique pour succéder au Brésilien Roberto Azevedo, qui démissionne fin août. Nathalie Barge.
Dans un document signé par le Nigérien Mouhamadou Issoufou, président en exercice de la CDAO, l'organisation régionale appelle les pays africains et non africains à soutenir la candidature de l'économiste nigériane Ngozi Okonjo-Iweala. Ex-ministre des Finances du Nigeria et ancienne directrice générale de la Banque mondiale, Ngozi Okonjo-Iweala est présidente de l'Alliance mondiale pour les vaccins et vaccinations et envoyée spéciale à l'Union africaine pour aider le continent dans la lutte contre le coronavirus. L'Union africaine, qui souhaite présenter un candidat unique d'ici le 8 juillet, doit approuver officiellement l'un des trois candidats du Bénin, de l'Égypte et du Nigeria. Le nouveau chef de l'OMC devra orienter les réformes et les négociations à l'heure du protectionnisme croissant avec la récession causée par la pandémie de COVID-19 sur fond de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.
Des milliers de personnes ont manifesté hier à Jéricho contre le plan de paix américain pour le Proche-Orient. Il s'agit du plus grand rassemblement en Cisjordanie depuis son annonce par Washington fin janvier. Abdourahman Dia.
Je suis venu ici pour protester contre l'annexion, car il n'y aura plus de terre pour un État palestinien si Israël annexe, a dit Mohamed, un manifestant. Nous ne laisserons pas Israël voler nos terres, a renchéri Kamal Saïd, un employé d'une ONG chrétienne vivant dans un camp de réfugiés. Pas d'État palestinien sans la vallée du Jourdain. La Palestine n'est pas à vendre, pouvait-on lire sur des pancartes. Ce n'est pas la première fois que des manifestations ont été organisées en Cisjordanie contre ce projet, mais cette fois, le parti Fatah de Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, avait appelé à une mobilisation massive malgré les restrictions liées au nouveau coronavirus à Jéricho, ville arabe à la pointe sud de la vallée du Jourdain. Le plan de l'administration américaine prévoit l'annexion par Israël des colonies juives et de la vallée du Jourdain, vaste plaine agricole, et la création d'un État palestinien sur un territoire réduit. Le leadership palestinien dit avoir rallié des soutiens internationaux contre ce projet, alors que le gouvernement du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit annoncer à partir du 1er juillet sa stratégie pour mettre en place le plan américain.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La Banque centrale du Nigeria a collecté 598 millions de dollars auprès des banques détenant des liquidités excédentaires dans le cadre des mesures visant à soutenir le Naira. La monnaie nigériane est sous pression à cause du coronavirus, la baisse du prix du pétrole et le départ des investisseurs étrangers. le Naira a atteint son plus bas niveau depuis mars, alors que la Banque centrale l'a dévalué de 15% pour atténuer l'impact du crash pétrolier. La société Sasol, producteur pétrochimique, prévoit de supprimer des emplois et de mettre fin aux opérations pétrolières en Afrique de l'Ouest dans le cadre d'une refonte de ses affaires. Sasol évoque des dettes élevées, une baisse des prix du pétrole et des produits chimiques et une baisse de la demande en raison du coronavirus. Ses intérêts dans le pétrole africain incluent une participation de 27,75% dans le permis Etame marin au Gabon et une participation de 10% dans un projet de gaz liquide au Nigeria. Pour terminer, la croissance économique du Rwanda a ralenti à 3,6% au premier trimestre contre 6,1% l'an dernier à cause du coronavirus. Le Bureau rwandais des statistiques a indiqué sur son compte Twitter que parmi les secteurs dont les performances se sont détériorées figurent l'agriculture, l'industrie et les services.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Les clubs du championnat nigérien de football ont voté pour la fin de la saison à cause du coronavirus. La saison 2019-2020 est conduite à s'arrêter en raison des circonstances actuelles de la pandémie de COVID-19 qui a ravagé le monde entier, a annoncé le président des propriétaires du club, Isaac Danladi, patron du Nassarawa United. 17 des 20 clubs de première division ont voté pour la fin de la saison, actant un classement en fonction du nombre de points glanés par match joué et l'absence de relégation. En conséquence, les clubs du Plateau United et d'Enyimba se qualifient tous deux pour la Ligue des Champions CAF et Rivers United pour la Coupe de la Confédération. Cette décision de mettre fin à la saison a été transmise à la fédération pour confirmation finale. Et puis, le Japon a renoncé à sa candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde féminine de football en 2023. Je ressens de la résistance contre l'organisation de deux événements majeurs dans le même pays en l'espace de peu de temps, une résistance renforcée par l'impact du coronavirus, a déclaré le président de la Fédération japonaise de football en référence aux Jeux de Tokyo reportés d'un an à 2021. Ce retrait du Japon laisse la place à un duel entre la Colombie et la candidature conjointe Australie-Nouvelle-Zélande. La FIFA doit annoncer ce jeudi le pays hôte de ce mondial féminin 2023 qui passe d'un format de 24 à 32 équipes. Triste nouvelle pour finir, Badara Mamaya Sen n'en est plus. Ancien arbitre international, ancien président de la commission des arbitres de la CAF, le Sénégalais a tiré sa révérence à Rufisque, ville dont il a été maire. De Dakar, la correspondance de Seydina Abagui.
Figure emblématique du sport sénégalais, Badara Mamaya Sen a gravi les échelons dans le monde de l'arbitrage sénégalais, africain et mondial, jusqu'à devenir un arbitre international très respecté. En 1992 à Dakar, il est au sifflet de la finale de la CAN opposant le Ghana à la Côte d'Ivoire et devient ainsi le premier sénégalais à arbitrer à ce niveau lors d'une Coupe d'Afrique des Nations. Après une riche carrière sur le terrain, Badara Mamaya Sen devient le président de la commission des arbitres au Sénégal, puis vice-président de celle de la CAF en 2013. En 2017, il accède au poste de président de la commission des arbitres de la Confédération africaine de football. Pendant et après sa carrière, il a été un modèle pour les différentes générations d'arbitres sénégalais, parmi lesquels les internationaux Fallon Doy, Badara Diata et Malang Djedjou. Badara Mamaya Sen est également une personnalité publique influente et aimée dans sa ville de Rufus où il était très apprécié par la jeunesse. Après plusieurs années d'activisme dans le domaine sportif et social, il s'engage en politique pour se mettre davantage au service de son terroir. C'est naturellement qu'il est élu maire de la ville de Rufisque avant de devenir haut conseiller des collectivités territoriales, poste qu'il a occupé jusqu'à son décès ce lundi 22 juin 2020 dans sa ville de Rufisque. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la condamnation à 20 ans de travaux forcés pour détournement de fonds et corruption de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, est diversement appréciée en RDC. Si certains saluent un pas important dans la lutte contre la corruption, d'autres y voient un règlement de comptes politiques. Ce procès de 100 jours marque-t-il un tournant dans la reddition des comptes? Quel est l'avenir de la coalition au pouvoir dont Kamerhe était l'un des ténors? Nous allons débattre de tout cela avec nos invités ce le jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Outre la pandémie de Covid-19 et des mesures strictes d'hygiène qu'elle impose, les Sénégalais font face à une pénurie d'eau depuis plusieurs jours, une situation qui commence à agacer fortement les populations qui s'inquiètent également de l'impact de cette pénurie sur la propagation du Covid-19. De Dakar, notre correspondant Seydina Abagué.
Ben Tali, Niari Tali, Biscuiteri, Grand Dakar, Grand Yoff, Parcelle Assini, Guédiouaï, pratiquement aucune zone de la capitale sénégalaise n'est épargnée par le manque d'eau. À Dakar, les populations affichent leur souffrance. Ibrahim Assal est dépité par cette situation.
On vit ça très dur parce qu'on attend l'eau la nuit, on ne dort pas. On attend jusqu'à 4h ou 5h pour que l'eau vienne. Vraiment, on est fatigué en raison de cette pandémie qui terrorise tout le monde. On n'a plus d'eau. C'est difficile à dire quoi, mais ce n'est pas bon pour notre santé. L'eau est une matière que tout le monde a besoin, chaque instant, chaque jour. Mais ça manque tout le temps. Des fois, les gens ne savent pas quoi faire.
En cette période marquée par la pandémie de la COVID-19, les citoyens s'inquiètent également du respect des conditions d'hygiène. Cette pénurie d'eau peut être un facteur aggravant de la propagation de la COVID-19, d'après Ao Kouate, résidente du quartier Cheikh Ngom, dans la banlieue de Dakar.
Pour cette situation, on le vit très mal, franchement parlé, parce qu'on veille jusqu'à 4h du matin pour avoir de l'eau, et même pas à 6h, ça s'arrête là. On ne dort pas normalement. C'est quelque chose de très difficile. Comme tout citoyen, on se débrouille, franchement parlé, même si la vie est tellement dur ces temps-ci avec la pandémie, c'est pas sûr, parce qu'il y a tous les risques qui sont dedans. En fait, pour se laver les mains, genre, etc., et l'eau n'est pas là, il y a tous les facteurs dedans, quoi. Mais bon, on essaie de faire y aller. Mais j'aimerais bien que, bon, voilà, que nous réglions ça le plus vite possible.
En plus de ne plus trouver suffisamment d'eau pour assurer leurs besoins élémentaires, les Sénégalais se plaignent également d'une hausse des factures qui impacte leur vie, déjà très difficile. Tierno Ndiaye habite au quartier Touba de Dakar et affirme que cette situation n'est plus tenable.
On est très fatigués, nos femmes n'en peuvent plus. Maintenant, ce sont les hommes qui prennent le relais pour aller chercher de l'eau ou attendre son arrivée tard la nuit. À cause de cette situation, nous sommes parfois en retard pour aller au travail. Depuis le changement de gestionnaire de l'eau, les factures ont considérablement augmenté. Personne ne peut le nier alors qu'il n'y a même pas d'eau. On veut bien payer, mais il faudrait d'abord qu'un service de qualité soit assuré. Mais avoir de l'eau entre 3h et 5h du matin seulement, c'est pas possible.
Pointé du doigt, la société SENEAU, gestionnaire de l'eau au Sénégal depuis janvier 2020, assure que ces désagréments sont dus à des travaux de maintenance et qu'une soixantaine de camions-citernes font des rotations pour garantir l'accès à l'eau aux zones déficitaires. En attendant des explications détaillées sur la hausse des factures, les Sénégalais, sevrés d'eau, espèrent un rapide retour à la normale. À Dakar, Seydina Abagué pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Bénin, la pandémie de coronavirus est entrée dans une phase bien plus sérieuse. Les cas de contamination se comptent par centaines et le nombre de décès a triplé en moins de 5 jours. Pour certains, le gouvernement a eu tort de lever le cordon sanitaire et de permettre l'ouverture des lieux de culte, des bars et restaurants. Précision de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Coïncidence ou simple coup de malchance, la théorie de l'opposition selon laquelle les cas de contamination au Covid-19 allaient monter en flèche au lendemain des élections communales et municipales semble se vérifier. En tout cas, les chiffres ont connu une flambée inquiétante, tant en nombre de contaminations que de décès. Le ministre de la Santé, Benjamin Roupatin, explique les raisons pour lesquelles de 400, le Bénin est passé en moins de 10 jours à 650 et de 2 décès à 13 à la date du 22 juin 2020. Pour lui, le relâchement dans l'observation des gestes barrières en est pour quelque chose.
Les nombreux cas actuellement enregistrés sont des cas contacts de sujets positifs à la PCR, des cas issus du dépistage systématique de groupes cibles, agents de santé, voyageurs entre autres, et des alertes de cas symptomatiques signalés par le call center. Les cas graves sont tous porteurs de TAR, c'est-à-dire de maladies préexistantes, diabète, hypertension artérielle, drépanocytose, qui renforcent leur fragilité vis-à-vis de la maladie. On note par ailleurs un recours tardif aux services de santé du fait de l'automédication ou du déni de la maladie.
Devant la montée des cas de contamination, une équipe gouvernementale a rencontré les responsables religieux afin qu'ils puissent redoubler d'ardeur dans la sensibilisation de leurs fidèles. Le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, explique ici les raisons pour lesquelles les lieux de culte sont désignés comme vecteurs de propagation de la maladie.
Vous réunissez quotidiennement beaucoup de monde qui vous font confiance. Donc c'est normal qu'on vous conseille, qu'on s'écoute pour gérer ce cas grave qui concerne la vie.
Certains pensent que le gouvernement doit penser à un confinement et non ce cordon sanitaire installé pendant quelques semaines autour de certaines villes perçues comme étant des foyers de contamination. Mais pour le chef de l'État, le Béninois n'a pas les moyens de faire face à un confinement. Patrice Talon.
Contrairement aux citoyens des pays développés, d'Amérique dont je viens de parler, d'Asie, d'Europe, la grande majorité des Béninois est en revenu non salarial. Comme des personnes au Bénin ont un salaire mensuel et qui peuvent attendre 2, 3 semaines, 4 semaines, même sans travailler, et vivre des revenus du mois. Comment peut-on donc, dans un tel contexte, où la plupart de nos concitoyens donnent la popote avec les revenus de la veille, décréter sans préavis un confinement général de longue durée?
En attendant, les personnalités politiques et autres appellent la population à ne pas banaliser la maladie. Malik Gominan est patron de presse et depuis quelques jours, maire de la commune de Djougou, située dans le nord du Bénin. Pour lui, l'heure est grave et les gestes barrières restent importants pour en découdre avec la maladie.
C'est maintenant que la maladie veut atteindre sa vitesse de croisière. Les gestes barrières et autres que nous avons abandonnés, je vous en prie, reprenons-les. Parce qu'il faut vivre d'abord pour pouvoir travailler. Et il faut donner l'exemple à tout le monde. Ce n'est pas de la blague, le Covid est présent au Bénin et tue.
En tout cas, si le taux de contamination continue sur cette lancée, la refermeture des lieux de culte, des écoles, des bars et restaurants risque d'être d'actualité. Déjà, le centre de traitement des malades du virus est à ses combles et il devient difficile pour les médecins de trouver où placer de nouveaux malades. De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, le gouvernement annonce plusieurs mesures de déconfinement progressif, notamment la réouverture à partir de ce mardi des lieux de culte, des hôtels ou des bars. En revanche, à Pointe-Noire, la deuxième ville du pays, les autorités locales appellent à la fermeture de tous les centres privés de mise en quarantaine et de prise en charge des cas de Covid-19. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin.
Il y a plusieurs semaines que ces centres de mise en quarantaine poussent comme des champignons à Pointe-Noire. Certaines cliniques médicales bien huppées de la ville font également la prise en charge des malades Covid-19, ce qui fait remonter les autorités de Pointe-Noire. Pour le préfet Alexandre Honoré Paca, ces centres doivent tous fermer.
Dans les 48 heures, tous les sites disséminés, ça et là, intègrent les sites de l'État, faute de quoi les contrevenants s'exposent sous le coup de la loi. L'objet est de mettre fin à tout ce désordre constaté dans la multitude des sites de mise en quarantaine des cas atteints de la Covid-19.
L'armée et les forces de sécurité se disent disponibles pour appuyer l'action de la préfecture. Le général Olé Songo, commandant de la zone militaire de Pointe-Noire.
On ne peut plus accepter qu'il y ait dans la seule ville de Pointe-Noire plus de 14 sites. Nous ne devons pas privilégier la puissance financière au détriment de la santé de nos concitoyens.
En réalité, les sociétés pétrolières occupent des hôtels et certaines villas au centre-ville où elles passent la quarantaine à leurs employés en laissant les monter sur les plateformes. Pendant 14 jours, un médecin passe prélever la température. À 38 degrés, vous ne montez pas sur le bateau, indique un employé de Total qui souligne qu'il n'y avait pas de mal à cela. Les deux centres de prise en charge des cas Covid-19 ouverts par les autorités à Pointe-Noire ont beaucoup de manquements, affirme un autre employé d'une sous-traitance pétrolière. La population de Pointe-Noire a son propre regard sur cette situation et la présence de la pandémie.
Je suis Augustin Gembo, en tant que Ponténégrin, je salue cette initiative en fermant ce site de mise en quarantaine non conforme et de prise en charge des malades atteints de la Covid-19. Pointe-Noire a aujourd'hui 382 cas avec 17 décès. Parce que plusieurs cas ont été signalés dans les plateformes, bien sur place à Pointe-Noire ici, mais qui n'étaient pas dans les hôpitaux. Ils étaient dans des cliniques privées.
En tant qu'habitant de Pointe-Noire, on se pose mille et une questions. Les chiffres ne font qu'augmenter. Mais sinon, on ne sait pas exactement où on va. Si aujourd'hui, quelqu'un manifeste les signes de corona, il a même peur d'aller à l'hôpital parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va trouver à l'hôpital.
Avec 1013 cas, dont 28 décès, le Congo connaît une situation de la pandémie encore en croissance. Mais vu que le nombre de guéris, 456, est proche de la moitié des cas totaux, le gouvernement a décidé d'aller alléger plusieurs mesures, notamment la réouverture des lieux de culte, des restaurants et des hôtels, les voyages entre Brazzaville et Pointe-Noire également. Mais la fermeture des frontières et le couvre-feu restent en vigueur. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
En République démocratique du Congo, les conséquences de la fistule restent désastreuses pour la femme. Elle subit discrimination, isolement et frustration. L'hôpital Heal Afrique de Goma, dans le Nord Kivu, tente de redonner la dignité à toutes ces femmes victimes de ce fléau. Dans cette ville, plus de 130 malades ont été soignés l'année passée sur les 768 que les médecins de Heal Africa ont traités sur l'ensemble du pays. Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma.
La pathologie de la fistule touche une femme sur trois dans les milliers ruraux en RDC. Aujourd'hui, l'on ne peut plus dire que cette maladie est forcément liée au viol, mais le plus souvent, c'est suite aux accouchements dans de mauvaises conditions, explique le docteur Justin Kasereka, médecin gynécologue et spécialiste de la fistule à Heal Afrika Goma.
Toutes les catégories de femmes peuvent se retrouver avec ce problème de fistule lié à l'accouchement, si l'accouchement n'est pas sécurisé. Mais la catégorie de femmes que nous voyons souvent, ce sont des femmes défavorisées, des femmes vulnérables. C'est-à-dire, ça peut être un accouchement par voie basse, ça peut être par voie haute, c'est-à-dire par césarienne. Et nous, le travail que nous faisons, nous réparons ces femmes, nous les soignons depuis bientôt 20 ans.
Considérons aujourd'hui comme une pathologie de la femme moins nantie, surtout celle issue des milliers ruraux. C'est le cas de Foura, un nom d'emploi donné à une des patientes de la fistule qui a accepté de parler au micro des VOA Afrique, arrivée du village de Miriki, à plus de 200 km, pour suivre les soins ici au chef-lieu de la province. Cela fait 2 ans aujourd'hui.
Les jours de mon accouchement, j'avais des difficultés à terminer de travail. C'est ainsi que les infirmiers m'avaient fait une déchirure, comme l'enfant était déjà décédé.
Elle est putée d'une maladie de la honte, un sujet tabou qui entraîne l'exclusion. Elles sont rejetées par leur communauté et par les époux. Foura a été aussi abandonnée par son mari plusieurs mois avant qu'elle ne trouve quelqu'un pour l'accompagner jusqu'ici à Heal Afrika. Un moment de tristesse, c'est de sa vie qu'elle raconte souvent larmes aux yeux.
J'ai été rejetée par la famille et mon mari est parti en disant qu'il ne pouvait plus supporter cette odeur des urines. Ça fait 2 ans que je suis ici à l'hôpital. Les traitements évoluent très bien. De même que ma santé aussi. Pour le moment, je vais apprendre la coupe et couture.
Presque à la fin de son traitement, pourra avoir attrapé l'état comme la dizaine d'autres anciennes malades de la fistule. Elles ont choisi d'apprendre les métiers de couturière ici même au centre de l'Afrique. Mélissa Massika est une assistante sociale. Elle pense que ce métier rendra Afora à son autonomie en fait de se réintégrer dans sa communauté d'origine.
Il y a des fois aussi on fait les médiations familiales pour que la famille puisse l'accueillir de nouveau. Comme vous l'avez vu avec notre maman ici, quand elle sera guérie, on la donne la machine, alors elle continue à se promouvoir avec cette machine-là.
Plus de 85% des malades internés ici à Île-Africa proviennent des zones rurales, souvent confrontées aux conflits armés, manque de structures sanitaires adéquates, mais aussi des infirmiers bien formés à l'accouchement. Le 23 mai dernier, lors de la célébration de la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale, le centre hospitalier Île-Africa dit avoir soigné 768 patientes avec fistule urogénitale sur l'ensemble du pays. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia.